Donc, d'après l'évangile de Jean, sur la croix se tenaient quatre femmes, dont la mère de Jésus. Et Jésus dit à sa mère, voyant également au pied de la croix le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », au disciple, « Fils, voici ta mère », et chacun s'occupe de l'autre. Ce texte pose de très grandes questions et soulève de grands mystères, en particulier la personnalité très étrange de ce disciple que Jésus aimait. Vous savez que dans l'évangile de Jean, il est toujours question de ce disciple anonyme, appelé le disciple que Jésus aimait. On ne sait pas qui c'est, et à la fin, il dit que c'est lui qui a écrit l'évangile, qu'on attribue à Jean, mais en fait, on ne connaît pas l'identité de ce disciple. Alors, sur l'identité de ce disciple mystérieux, il y a eu énormément d'idées. On a dit, bien sûr, que c'était Jean, l'un des fils de Zébédée. C'est comme ça qu'on appelle l'évangile de Jean. Là-dessus, tout le monde est d'accord, ça n'est pas Jean. Alors, d'autres se disent, c'était peut-être un des 12 apôtres. On essaye de savoir lequel, mais ça n'est pas simple. D'autres disent, c'est peut-être Nicodème, puisque dans Jean, il vient voir Jésus de nuit par peur des Juifs, donc il est anonyme. D'autres disent, c'était peut-être le jeune homme riche, puisque dans l'évangile, on dit Jésus l'aima, donc ça peut être une hypothèse. Ou Joseph d'Arimathée, ou encore une autre solution qui me semble meilleure. Certains disent, c'était peut-être tout simplement un des frères de Jésus. J'aime cette hypothèse, je crois que c'est celle-là qui est la plus intéressante. En particulier, je pense, moi, je ne suis pas le seul, mais je crois que ce disciple que Jésus aimait pouvait être Jacques, le frère du Seigneur. Pourquoi ? Parce que la plupart des théologiens pensent aussi que l'auteur de l'évangile de Jean était certainement un des prêtres du temple de Jérusalem. C'est un théologien, il a ses entrées auprès du grand prêtre, on le voit au moment du procès, et donc on se dit que ça devait être un des prêtres de Jérusalem. Or, Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, reprend un texte du début du IIe siècle qui dit que Jésus avait un frère appelé Jacques qui était prêtre au temple de Jérusalem. Donc c'est un très bon candidat, et ça expliquerait pourquoi c'était un disciple qu'il aimait particulièrement, parce que c'était son frère, voilà, donc il avait un lien particulier avec lui, et ça explique aussi pourquoi il reste anonyme, parce qu'en tant qu'autorité du temple, il y avait des persécutions des Juifs contre les chrétiens, donc il ne voulait pas trop se mouiller, et surtout ça résoudrait un problème. Si Jésus avait des frères, pourquoi doit-il confier sa mère à un disciple étranger ? Normalement, Marie, elle aurait pu être prise en charge par ses frères. Jésus avait des frères, donc elle n'était pas abandonnée. Et s'il s'adresse effectivement à son frère Jacques, il dit à son frère, « Bon, écoute Jacques, c'est bon, tu prends soin de maman. » C'est logique. Donc tout rentre dans l'ordre. Et il ne confie donc pas sa mère à un inconnu, ce qui en plus a du sens parce que le texte nous dit qu'il y avait quatre femmes présentes. Donc il y avait, je vous résume, la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie de Clopas et Marie-Madeleine. Donc autrement dit, il y avait Marie, enfin la mère de Jésus, la sœur de sa mère, c'est la tante de Jésus, si je comprends bien. Il y avait une Marie de Clopas. Alors là, ça, on ne sait pas qui c'est. Certains disent Marie, la femme de Clopas, mais c'était peut-être aussi sa sœur ou sa fille. Et Gésippe, encore un autre historien du début du IIe siècle, dit que Clopas, dont on n'entend jamais parler dans la Bible, nulle part, était le frère de Joseph. Bon, c'est peut-être vrai, je vais admettre cette hypothèse parce que je n'en ai aucune autre à proposer. Et donc cette Marie de Clopas serait, autrement dit, soit la femme du frère de Joseph, donc une tante de Jésus, soit la fille du frère de Joseph, donc la cousine germaine de Jésus, autrement dit. Et puis Marie-Madeleine, c'était la copine de Jésus. Donc autrement dit, il y a toute la famille qui est là. Il y a sa tante, il y a sa mère, il y a sa cousine, et puis sa bonne amie. Donc c'est formidable. Toutes les femmes de la famille sont là, donc vous voyez, Marie, mère de Jésus, n'était pas abandonnée ni seule. Bon, cela dit, tout ce que je vous raconte là, depuis le début, n'a strictement aucun intérêt théologique. C'est amusant parce que, on se pose des questions sur l'histoire, Mais ça n'a aucun intérêt théologique de savoir si Clopas était la sœur de Jacques ou d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est que on ait gardé pour ce disciple le nom du disciple que Jésus aimait. Si on savait qui c'était, il n'y avait qu'à, dans le texte de l'Évangile, dire ben c'était Jacques ou Jean, ou qui vous voulez. Pourquoi est-ce que dans l'Évangile de Jean, toujours on l'appelle sous le nom du disciple que Jésus aimait ? Et là, un bon nombre de théologiens, et ils ont raison, disent en fait, c'est parce que ce disciple doit rester anonyme, parce que justement, chacun peut s'identifier à ce disciple que Jésus aimait. Parce que, en fait, qui est le disciple que Jésus aimait ? Eh bien, vous en êtes chacun de vous. Chacun de vous est un disciple bien-aimé de Jésus. Et je suis, moi, le disciple que Jésus aimait. Donc, autrement dit, ce disciple que Jésus aimait est anonyme pour que chacun puisse s'identifier à lui. Vous savez, comme si vous allez au musée de la Réforme, on vous montre un portrait de Calvin avec juste le trou pour la tête. Et donc, vous passez la tête dans le trou et puis vous demandez à quelqu'un de prendre la photo et vous dites « Voilà, je suis Calvin ». Et en fait, c'est pareil. Là, le disciple que Jésus aimait, c'est le disciple avec le trou pour la tête et vous mettez votre tête dedans et du coup, cette histoire devient votre histoire. Et donc, comme vous le disiez à l'étude biblique hier, jeudi, c'est un peu le livre dont vous êtes le héros. Voilà. Et donc, ça marche très bien. Et du coup, on en arrive à l'interprétation habituelle de ce Stabat Mater, hein, qui veut dire « la mère se tenait au pied de la croix ». L'interprétation qu'on a dans l'Église catholique romaine, de dire, en fait, Jésus confie l'Église, représentée par le disciple, à la Vierge Marie. Ah, ça c'est intéressant. Donc, est-ce que je vais devenir mariolâtre au point de dire que Jésus confie l'Église à la Vierge Marie pour que la Vierge Marie prenne soin de l'Église et que l'Église prenne soin de la Vierge Marie ? Les protestants n'ont pas tellement aimé cette interprétation, ce qui fait qu'ils en ont trouvé d'autres, tout en gardant l'idée que ce disciple bien-aimé peut être une image un peu emblématique. En particulier, le grand théologien protestant Bultmann dit, en fait, Marie représente les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens de la première heure qui sont liés au judaïsme, comme Marie, et le disciple représente les pagano-chrétiens, donc les nouveaux chrétiens convertis qui découvrent l'Évangile sans être passés par la case juif. Et en fait, on sait que ces deux communautés, au départ, se tapaient un peu dessus. Enfin, il y avait des jalousies, c'était compliqué pour les juifs d'intégrer les chrétiens non-juifs et pour les païens d'accepter qu'il y ait des juifs. Et donc Jésus, simplement, sur la croix, dirait... Eh bien, écoutez, vous, les judéo-chrétiens, accueillez les chrétiens nouvelle génération, et vous, les nouveaux chrétiens, accueillez les chrétiens de l'ancienne génération pour ne faire qu'un et veiller les uns sur les autres. Deuxième fausse piste, je suis désolé, je vous embarrasse avec des tas de choses qui sont des contresens, à mon avis. Mais ça, cette idée de Bultmann, c'est parce que lui est convaincu que l'Évangile de Jean a été écrit très tard, c'est-à-dire au début du IIe siècle, donc à un moment donné où on était très loin de l'histoire de la croix et très loin de tout ça, on était dans des problématiques de communauté juive ou pas juive. Et donc il dit Jean écrit ça de toutes pièces et invente même le scénario pour essayer de régler un problème de paroisse. Bon. Et donc je vais vous proposer une autre lecture, que je suis la seule à faire, et ce qui la relativise d'avance, mais néanmoins, elle me plaît, c'est déjà ça. D'abord, en tant que bon protestant, je dirais, je voudrais récupérer ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'interprétation habituelle du Stabat Mater dans l'Église catholique romaine, tout d'abord, en bon protestant, en le voyant non pas collectivement, mais individuellement. Vous savez qu'en général, les protestants raisonnent au niveau de l'individu et l'Église romaine plutôt au niveau de l'Église, c'est-à-dire de la collectivité. Et ainsi, je dirais individuellement, le disciple bien-aimé, ce n'est pas l'Église, mais c'est chacun. Et donc, Jésus prend chacun de vous et lui dit, tiens, toi là, voici ta mère, en montrant Marie. Et il dit à Marie, voici ton fils. Et donc il invite chacun à rentrer dans un rapport, d'une relation filiale vis-à-vis du Christ, et à prendre Marie dans sa maison. Et cela pas seulement parce que Marie serait une image de la douceur, de la maternité, de la gentillesse, mais pour d'autres raisons. Donc qu'est-ce que ça fait qu'il demande à prendre la place de Jésus ? Deux choses. D'abord, que Jésus étant le fils de Marie, il demande aux disciples de devenir aussi le fils de Marie, c'est-à-dire, autrement dit, à prendre le rôle de Jésus. C'est-à-dire qu'il invite le disciple à être le successeur ou le remplaçant de Jésus. Donc Jésus meurt sur la croix, donc il n'y a plus de Christ, plus de Jésus plutôt. Et qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il dit, eh bien, c'est à vous maintenant de jouer ce rôle du Christ. Et donc, plutôt que de rester passivement à dire, ah, faudrait que Jésus fasse ceci, faudrait que Dieu fasse cela, et si Dieu existait, il y aurait ci, et si le Christ faisait, eh bien, écoutez, faites vous-même le job. Hein. Ce que vous attendez de Dieu, faites-le vous-même. Et ça, c'est très simple. Donc, attendez beaucoup de Dieu si vous voulez, mais dites-vous que c'est à vous de faire ce que vous aimeriez que Jésus fasse. Et donc, il faut effectivement, je dirais, se mettre dans ce nouveau rapport au Christ. Et puis, d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans une relation filiale avec Marie ? Alors là, je recherche dans l'évangile de Jean, et je découvre que dans l'évangile de Jean, Marie n'intervient qu'à deux endroits seulement. C'est aux noces de Cana, au début, tout au début, c'est première apparition de Jésus en public, les noces de Cana, et à la fin, au moment de la croix. Donc il n'y a que deux passages. Entre les deux, elle disparaît. Jésus, elle est au début, aux noces de Cana. Et dans les deux cas, ça n'est pas un hasard, Jésus l'appelle « femme ». Il lui dit « femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» aux noces de Cana. Et à la fin, il lui dit « femme, voici ton fils », en montrant le disciple qu'il a bien aimé. Et donc je me dis, vous voyez, en fait, les deux sont évidemment liés. Alors que faire dans ce moment où justement il peut y avoir, je dirais, la mort du Christ ? Donc que faire si on ne peut pas tout attendre de Jésus ? Que faire peut-être dans le temps de résurrection ? De quelle manière on peut concevoir une présence du Christ ressuscité d'une autre manière ? Eh bien la réponse à toutes ces questions, c'est aller voir du côté de Marie. Et donc, la réponse, elle se trouve dans les noces de Cana, puisque c'est là que Marie fait quelque chose, c'est le seul endroit où elle agit et elle fait quelque chose. Dans les noces de Cana, Marie va tout simplement enfanter le Christ, comme on dit. Vous savez que dans l'évangile de Jean, il n'est pas question de la naissance biologique de Jésus, donc on n'en parle pas. Mais Marie apparaît au moment où celle qui initialise le Christ, puisque c'est Marie qui lance Jésus à faire sa première action, qui est de transformer l'eau en vin. Et on dit en général que c'est là, dans Jean, présente Marie comme étant non pas la mère biologique, autrement dit, de Jésus, mais comme étant celle qui l'enfante en tant que Christ. C'est-à-dire qu'il était déjà Jésus de Nazareth et il devient Jésus-Christ. Donc dans Jean, qui est un évangile théologique, Marie est celle qui institue Jésus dans son rôle de Messie, c'est-à-dire de Christ, celui qui va apporter le vin nouveau, c'est-à-dire une parole nouvelle, une joie renouvelée, et qui permet à Jésus de faire des miracles, des signes, comme dit l'évangile de Jean, c'est-à-dire des gestes qui indiquent quelque chose qui est au-delà du geste. Et donc Jésus sur la croix nous invite à nous faire enfanter par Marie, comme lui l'a été en tant que Christ, et il invite à prendre, je dirais, la place du Christ et à devenir nous-mêmes des petits Jésus-Christ, comme lui l'est devenu aux noces de Cana. Ça, c'est intéressant aussi parce que, si je reprends la tradition médiévale catholique, on disait à ce moment-là que le prêtre était un alter Christus, c'est-à-dire un autre Christ. Et donc le prêtre est un autre Christ, et le peuple, ben c'est le peuple qui écoute gentiment. Et en fait, dans cette vision des choses, c'est pas juste le prêtre, C'est le disciple bien-aimé, tout disciple est invité à devenir un autre Christ. C'est-à-dire, on en arrive à ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Donc voilà, la foi chrétienne nous invite à devenir semblable au Christ. Alors ça, vous réfléchirez à ça, c'est une très grande question, enfin, je ne peux pas trop développer là, mais ça a été un grand débat de savoir est-ce que le Christ est là pour qu'on devienne semblable à lui ou est-ce qu'il est là pour donner un message auquel on devrait obéir. Là, je resterai dans l'idée que nous sommes invités à devenir nous-mêmes à l'image du Christ et à nous laisser enfanter comme le Christ l'a été pour devenir comme Jésus-Christ. Et c'est Marie, cette Marie des noces de Cana, qui nous permet de devenir semblable au Christ, on va voir comment, et qui nous permet aussi du coup de faire des choses extraordinaires, des miracles. Oui, c'est ça. À la fin des noces de Cana, on dit « Jésus a fait là son premier miracle ». C'est la conclusion du récit. Mais en fait, le texte ne dit pas miracle. Le texte original, il y a « séméion », un signe. Jésus fait là le premier des signes. Et un signe, c'est un geste qui a du sens, par définition. Donc voilà ce que va nous permettre ce rapport à cette Marie de Cana, c'est de faire des gestes qui aient du sens. Ça m'intéresse aussi. C'est la promesse que nous pouvons avoir. Agir avec du sens, c'est tout le contraire de ce qui menace notre vie, qui est d'avoir une vie absurde, où on dit « mais en fait, tout ça mène à quoi ?» Tous ces gestes qui ne mènent à rien, quand notre vie n'est que de l'absurdité ou de la vanité, qu'un moulin qui tourne à vide, eh bien, ça c'est très angoissant. Et voilà que ce passage par la Marie du noce de Cana nous permet d'avoir une vie qui a du sens, c'est-à-dire qui indique quelque chose, qui n'est pas une vaine agitation inutile, mais qui a une visée. Ce qui donne du sens à notre vie, bien sûr, c'est propre de la foi. La foi, c'est une conviction, c'est s'attacher à un sens et de dire « moi, je sais ce que je veux faire de ma vie, quel que soit le métier que je fasse, je sais où je veux aller, j'ai une visée, je sais pourquoi je suis sur terre, quel rôle je peux jouer, qu'est-ce que je peux apporter et pourquoi le matin je me dis « quoi que je fasse, voilà dans quelle direction je veux aller » et ce qui structure, oriente, constitue le sens même, l'ossature de mon existence. C'est ça la foi, c'est indispensable d'avoir ça. Sinon notre vie c'est quoi? C'est du papillonnage qui ne mène à rien. Et donc voilà, nous devons être enfantés comme le Christ qui sait pourquoi il est là et ce qu'il fait. Et c'est pour ça, je vous ai dit, pour ça il faut être, se faire enfanter par Marie comme Jésus l'a été aux noces de Cana. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'appelle à chaque fois femme. La femme, effectivement, c'est pas un terme péjoratif, mais c'est celle qui donne la vie, qui enfante. Et donc nous devons nous laisser enfanter par Marie comme le Christ l'a été aux noces de Cana. Donc, revenons aux noces de Cana et demandons-nous, je continue mon enquête, comment Marie a déclenché Jésus pour le transformer, son petit Jésus sympathique, en Christ. Alors, elle fait plusieurs choses. Sa première action à Marie, dans les noces de Cana, c'est de dire aux gens, de dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire qu'il fait voir à Jésus le manque. Il fait voir qu'il manque quelque chose, donc il y a quelque chose à faire. Ils ont soif, ils ont faim, il manque ça. Peut-être que c'est ça le point de départ qui peut être celui de notre conversion, c'est d'arriver à être attentif à ce qui manque. Ce qui manque, pas à soi, parce que Marie, elle manquait de rien, elle était très sobre sûrement, elle ne buvait pas de vin, j'en sais rien. Enfin, elle ne dit pas « j'ai soif », elle dit donc « elle dit ils n'ont plus de vin ». Donc, être attentif à ce qui manque aux autres. Si vous faites ça, vous êtes déjà sauvé. C'est-à-dire, au lieu de regarder vos problèmes, « ah, j'aimerais ceci, j'ai pas ça », regardez autour de vous, proche, lointain, là, partout. Il manque quelque chose à ces gens. Ils ont faim, ils ont soif. Tu peux faire quelque chose pour eux. Tu peux apporter là, ici ou là, quelque chose, parce que là, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Il leur manque du vin. Et en particulier, le vin dans la Bible, ce n'est pas le gros rouge, c'est le signe de la joie. Il manque de joie quelque part. Où est-ce que moi, je peux apporter un peu de joie et un peu de fête? Voilà, ben, rien que ça, oubliez tout le reste. Et votre vie a déjà un sens. C'est simple, très simple. Vous voyez, comment on passe à côté, on lit ces textes depuis des années, et on ne voit pas qu'il y a là, dans ce « ils n'ont plus de vin », ce qui va simplement transformer un Jésus charpentier en Christ, quoi. C'est fou, c'est absolument bouleversant. Et ensuite, Jésus répond « Mon heure n'est pas encore venue ». Ça, c'est bizarre, ça. Il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». C'est bizarre parce que, finalement, il va le faire quand même. Donc, c'est qu'on heure était quand même venue. Ben, je ne sais pas, moi, je suis peut-être trop logique, mais il dit « Mon heure n'est pas encore venue » et il le fait quand même. Donc, c'est à ce moment-là qu'il devient Christ, donc c'est que son heure était venue. Donc, je pense qu'en fait, c'est là où Marie va vraiment bousculer Jésus. Jésus dit « C'est pas le moment, j'ai pas le temps, je suis pas prêt, j'ai autre chose à faire, fous-moi la paix, quoi. » Marie et Jésus comprend que non, c'est maintenant. Mais oui, mon heure est venue, c'est maintenant. Donc, deuxième chose, ne reportez pas demain. Vous dites « Oui, il a raison le pasteur, je ferai attention demain. » Pas demain, tout de suite, c'est maintenant, tout de suite, maintenant. L'heure, elle est maintenant. Aujourd'hui, à l'instant, tout de suite, dans une heure, dans deux minutes. « Mon heure n'est pas encore venue, dis-tu. » Haha, très drôle. Accepte que c'est maintenant l'heure, tout de suite. C'est le moment, ne remettons pas à plus tard. Et c'est pour ça que les théologiens ont longuement toujours disserté sur ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le bon moment. Je ne veux pas dire qu'ils ont entièrement tort, il y a parfois des choses à faire quand c'est le moment de les faire. Mais en tout cas, là, dans les noces de Cana, le kairos, le bon moment, le moment de la récolte, le moment où il faut faire les choses, où c'est le bon moment de faire les choses, eh bien, je vais vous dire, c'est très simple, c'est tout de suite. Voilà, pas demain. Et donc, Marie le bouscule et elle a raison. Elle a raison. Alors, Jésus a du mal. Jésus va poser une question et il va dire, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Qu'y a-t-il, quoi, entre toi et moi? C'est une question compliquée, ça mériterait une prédication entière, j'en garderai qu'une idée, c'est peut-être que toujours dans ce processus de conversion et d'enfantement, de filiation que nous devons vivre, peut-être est-il bon de toujours se poser la question de ce qu'il y a dans sa relation entre soi et les autres. Voilà, ça c'est une bonne question. Qu'y a-t-il entre moi et lui? Qu'y a-t-il entre moi et un tel? Entre moi et le monde? Qu'est-ce qu'il y a comme lien? Qu'est-ce que j'ai comme lien entre moi et les autres? Entre moi et la nature? Ce qui repose toute la question de l'écologie, c'est une bonne question. Qu'y a-t-il entre moi et les autres? Entre moi et la nature? Entre moi et mon frère? Entre moi et mes enfants, entre moi et mes parents, entre moi et mon collègue de travail, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se joue dans la relation? Et puis surtout, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a entre moi et Dieu? Quelle est la nature de ce lien entre moi et Dieu? C'est là que tout se joue et c'est là que se joue le sens de notre vie. C'est la question fondatrice, je dirais, de tout ce qui sera notre réponse dans tous les domaines. Dans le domaine de l'écologie, de l'action, de l'aide humanitaire, de la compassion vis-à-vis des autres, et même dans la question générale de l'amour. Et puis, bien sûr, en particulier, le lien, qu'est-ce qu'il y a comme lien d'engendrement entre moi et la source de la vie christique qui est à l'œuvre par Dieu dans le Christ. Et donc voilà ce processus d'engendrement absolument incroyable, auquel Jésus nous renvoie, il est sur la croix, et il dit « Toi, eh bien, va faire un petit tour chez Marie, comme elle m'a enfanté aux noces de Cana. » Donc il nous renvoie à cela, et il nous invite à dire que nous devons intégrer et prendre chez nous cette présence maternelle et enfantante que représente Marie dans l'évangile de Jean, en particulier aux noces de Cana, puisque c'est le seul endroit où elle fait quelque chose, et qui a, je dirais, les trois points qui nous permettent de changer toute notre vie. La première chose, que je ne vous ai pas évoquée, mais j'ai gardé pour la fin, c'est qu'elle a confiance en nous. C'est vrai, elle dit à Jésus, elle attend quelque chose de Jésus. Jésus dit non, je n'ai pas le moment. Marie dit, faites tout ce qu'elle vous dira. Elle sait qu'il peut. Et donc, effectivement, Dieu a confiance en vous. Ça, c'est formidable. Arrêtez de dire, mais je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne saurais pas faire. Dieu a confiance. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc ça, cette confiance extraordinaire, j'allais dire, de la mère juive dans son enfant, eh bien, c'est quelque chose que Dieu nous donne et qui est fondamentalement porteur et libérateur. Donc voilà, je peux oser parce que ma mère croit en moi et Dieu croit en moi infiniment. Ensuite, parce que je vous l'ai dit, cette Marie va nous inviter à prendre conscience de ce qui manque chez les autres et de quoi ils ont besoin. Et puis, parce que, je vous l'ai dit aussi, elle nous pousse à agir maintenant. Donc bref, elle nous met en confiance, elle nous met en relation avec les autres, elle nous ouvre aux autres et nous pousse à agir en confiance. Et bien voilà les secrets, je dirais, de la conversion et de cette filiation extraordinaire qui permet de rentrer, qui nous invite à rentrer dans cette relation double avec cette Marie des noces de Cana, d'abord d'une double adoption, de savoir que Marie nous prend pour son fils. Femme, voici ton fils. Donc voilà, on a confiance en moi, bonne nouvelle. Et enfin, fils, voici ta mère. C'est-à-dire maintenant, prends soin d'elle et prends soin de cette relation. Et donc prenez soin de cette Marie de Cana. Prenez soin de cela. Parce que toutes ces trois questions que je vous ai dites là, c'est la clé de tout. Veillez dessus de tout votre cœur. Mettez ça dans votre maison. Inscrivez-le sur la glace de votre salle de bain. Chaque fois que vous vous lavez les dents, vous le voyez. Mettez cette Marie de Cana chez vous, dans votre maison. Promenez-la avec vous dans votre vie de tous les jours, au boulot, au loisir, quand vous faites de la piscine, du vélo, du trampoline, si vous voulez. Prenez Marie chez vous. Pas n'importe quelle Marie comme ça, cette Marie de Cana qui enfante le Christ et qui lui permet de faire des choses extraordinaires et en particulier de faire des gestes qui soient des signes, c'est-à-dire qui remplissent une vie de sens pour faire des miracles. Et si vous prenez cette Marie chez vous, vous ferez des miracles extraordinaires. Amen.